Voici le texte que nous méditerons. Il est extrait du livre d'Osée, au chapitre 2, du verset 10 au verset 25. Elle n'a pas compris que c'est moi qui lui donnais blé, vin nouveau, huile fraîche. Je lui prodiguais de l'argent, et l'or, ils l'ont employé pour Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé en son temps, mon vin nouveau en sa saison. J'arracherai ma laine et mon lin qui devaient cacher sa nudité. Et maintenant, je vais dévoiler sa honte aux yeux de ses amants. Et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats et toutes ses assemblées solennelles. Je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle disait « Voici le salaire que m'ont donné mes amants ». Je les changerai en fourrés, et les bêtes sauvages en feront leur nourriture. Et je lui ferai rendre compte des jours des Baals auxquels elle brûlait des offrandes. Elle se parait de ses anneaux et de ses bijoux, et elle courait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait. Oracle du Seigneur. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert. Je parlerai à son cœur. Et de là-bas, je lui rendrai ses vignobles. Je ferai de la vallée de Hacor une porte d'espérance. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta d'Égypte. Et il adviendra en ce jour, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom des Baals et on ne mentionnera même plus leur nom. Je conclurai avec eux, en ce jour-là, une alliance. Une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai. Il n'y en aura plus dans le pays. Et je permettrai aux habitants de dormir en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, par l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur. Et il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle du Seigneur. Je répondrai à l'attente des cieux et eux, répondront à l'attente de la terre. Et la terre, elle, répondra par le vin, par le blé, par l'huile fraîche. Et eux répondront à l'attente d'Israël. Je l'ensemencerai pour moi dans le pays et j'aimerai l'Oruama, qui veut dire non-aimé, et je dirai à l'Oami, qui veut dire tu n'es pas mon peuple, je lui dirai « C'est toi, mon peuple. » Et alors lui, il dira « Mon Dieu. » Alors, vous avez dû noter que cet oracle a des accents passionnés, assez inhabituels. Son propos sont intimistes. Et il faut voir que cette partie, en tout cas cet oracle à lui seul, est à l'image du livre d'Osée. Osée, c'est un prophète qui dénonce les errements du peuple d'Israël et il le fait parce qu'il est consumé par l'amour ardent de Dieu pour son peuple. C'est un prophète particulier. Sur ordre de Dieu, il vit une vie scandaleuse, car il a épousé une prostituée sacrée, Gomère. Et il vit le drame de l'un de son infidélité, alors qu'il lui a conservé tout son attachement. Son expérience malheureuse, déchirante, se confond avec son message, car ce qu'il vit, c'est l'expression même de la souffrance de Dieu à qui le peuple d'Israël fait toutes sortes d'infidélités. Alors, quelles sont ces infidélités ? Eh bien, ce peuple d'abord qui s'est installé a cédé aux séductions ambiantes. Le culte de Baal, que l'on connaissait il y avait déjà plus de 100 ans avec Élie et Jézabel, ce culte de Baal connaît un regain d'intérêt. Ajouté à celui de l'alliance avec Dieu, il présente aux Israélites de l'époque, d'Osée, une garantie supplémentaire. On lui sacrifie des offrandes pour obtenir la pluie fécondante, des récoltes suffisantes et des troupeaux prospères. Mais par un glissement et par une contamination subtile, en associant ces deux dieux, eh bien le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob finit par prendre les traits de ce dieu de la fécondité. Et les Israélites de lui vouer un culte formel où on dissimule à peine le calcul qu'il y a derrière, en croyant s'acquitter de ses obligations avec lui, le peuple hébreu entre dans une relation qui a quelque chose à voir avec la prostitution. Une relation ritualisée, mais minimale, où le Dieu des pères est devenu un moyen pour obtenir des biens et des plaisirs, un moyen, une sorte de levier pour combler des besoins indispensables. Les conséquences sont très étendues. On finit par diviniser la puissance dans tous les domaines. Et puis, les infidélités les plus flagrantes, eh bien, elles se voient dans la direction du pays, ou plutôt dans l'absence de direction, parce que les élites sont totalement incertaines. Elles balancent entre les Assyriens et les Égyptiens, leurs puissants voisins, pour conclure des alliances hasardeuses, au plus offrant. Et puis, le pays est ravagé par des complots qui se montent et se démontent autour de la succession royale. Partout règne la corruption, et vous savez que la corruption, c'est toujours aux dépens des plus petits. Alors, ce peuple fragile court à la catastrophe, alors qu'à ses portes, son voisin assyrien attend le moment favorable pour l'engloutir. Même au moment où il croit revenir à Dieu, eh bien, Dieu s'est détourné de lui. C'est comme un vide qu'il y a à la place de Dieu, un point zéro de la présence de Dieu, qui est attesté par ces noms que j'ai dit j'ai lu à la fin. Eh bien, c'est le prénom que Dieu a demandé de donner aux deux enfants qui sont nés du mariage entre Osée et Gomère. La première, c'est une fille. Dieu lui demande de l'appeler non-aimée. Et le deuxième, c'est un garçon, de l'appeler pas mon peuple. Dieu les a abandonnés. Alors ce passage que nous avons lu est le résumé du livre d'Osée, car il montre, vous voyez dans ces quelques versets, à la fois un procès en divorce d'un peuple qui se prostitue à d'autres dieux, ensuite la conséquence inévitable, c'est-à-dire la rupture de l'alliance conjugale, mais aussi, en dernier, la figure souffrante d'un dieu époux de son peuple. En quelques phrases, on voit l'amour blessé prendre des accents douloureux. Et puis, on voit Dieu craquer, en quelque sorte. Et au moment où il craque, on voit se nouer un lien très étroit entre catastrophe et salut. au point de ne plus les distinguer. Au moment même où on s'attendait à entendre un châtiment sans appel, hein, quand on entend « oracle du Seigneur », c'est que ça va barder. Eh bien là, on a Dieu lui-même qui opère un retournement que normalement on aurait dû attendre de la part du peuple. Eh bien, c'est le mari trompé, le Dieu négligé, qui ne peut pas s'empêcher de manifester sa tendresse pour son peuple. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. On est surpris. Oui, je vais la séduire car il n'y a pas d'autre moyen de s'y prendre avec ce peuple qui se laisse si facilement séduire. Alors en hébreu, le terme séduction est très fort. Il traduit une certaine violence, puisqu'il s'agit d'un rapt, voire d'un viol d'une jeune fille dont on se rend maître en usant de la tromperie s'il le faut. Alors cette initiative musclée évoque plutôt la reprise d'une relation. Vous voyez, plus tard on dit « elle répondra comme au temps de sa jeunesse ». Alors, je parlerai à son cœur. Il faut se garder d'idéaliser la nouvelle relation en interprétant cette expression « parler à son cœur » dans un sens contemporain qui serait plutôt sentimental. Selon la conception vétérotestamentaire, le cœur, c'est le siège de la pensée. C'est là où se construit la volonté. C'est l'organe où naissent les intentions et les projets. Alors le rapt, hein, cette violence, ce rapt qui vise à détourner le peuple de la catastrophe, à laquelle il se donne pourtant passionnément, eh bien ce rapt, il a pour but de convaincre la femme Israël à se laisser décider en faveur de son Dieu. Oui, je la conduirai au désert. Le désert, c'est ce lieu que l'on met à l'écart. Je la mettrai à l'écart, car là où elle profite de l'abondance, elle vit sous la coupe de maître qui la prive d'elle-même. En effet, dans l'oreille de chacun, le désert renvoie à l'épisode de l'Exode qui suit la sortie d'Égypte. Et tout comme le Pharaon avait réduit le peuple en esclavage, eh bien les Baals de l'époque d'Osée, les Baals de la fécondité, poussent le peuple d'Israël à la prostitution. Le nom même de Gomère invite à cette interprétation. Il est construit sur une racine qui veut dire « combler », achever, pour ne pas dire gaver. C'est tout un programme qui indique qu'Israël pratique des rites cananéens par peur de manquer. Le remède que Dieu trouve à ces situations de dépendance qui cherchent à conjurer le manque, eh bien, c'est la rupture radicale, la séparation dans un lieu de privation. Le désert, c'est le lieu du vide. Ce lieu hautement symbolique où on ne va pas de son plein gré, ce lieu où on ne s'attarde pas pour éviter les périls, hein, comme les animaux sauvages, dangereux, les voleurs. C'est aussi, à l'époque, le lieu de la relégation, le lieu refuge des réprouvés, des marginaux, des indésirables, des déplacés en tout genre. Et c'est par conséquent l'endroit où on ne peut pas prendre racine, le lieu par excellence du déracinement. Étymologiquement, le désert, en hébreu, c'est le lieu de la parole, le milieu d'où jaillit une parole qu'on peut vraiment écouter. Alors, le silence ajouté à la soif en fait un endroit privilégié pour parler au cœur, pour parler de cœur à cœur, là où la profondeur de son être est engagée, là où on est réceptif à ce qui va droit vers l'essentiel. On pourrait aussi traduire le lieu dans la parole, hein, littéralement, c'est-à-dire ce lieu dans la parole où elle est absolument essentielle. Alors c'est ce qui nous permet de mieux accepter la connotation violente de la séduction. Est-ce que Dieu, pour nous parler à l'intime, de cœur à cœur, aurait besoin de nous faire sortir de nos chemins balisés, de nous sortir des idées largement fréquentées, de nous extraire de nos habitudes rassurantes qui comblent immédiatement nos besoins et qui bouchent le trou de nos insécurités? Eh bien, sa pédagogie passe par le dépouillement, par l'épreuve de la solitude, où rien ni personne ne peut nous accompagner. Oui, il nous faut passer par là où on doit tout reprendre, tout reconstruire à nouveau frais, là où on n'a même plus rien à perdre parce qu'on a tout perdu. Appui, repère, sens. Est-ce que pour entendre une parole qui fasse sens, qui donne une direction à sa vie, on n'a pas besoin de cette épreuve aride où on ne risque plus de suivre servilement quelqu'un parce qu'on est privé de tous ses automatismes? N'est-ce pas à l'image du peuple idolâtre et volage qui court après ses amants par des rituels qu'on voudrait magiques? N'est-ce pas là le besoin de se rassurer? Eh bien, sans doute. Sans doute faut-il à un moment que nous passions par ce vide où on a le sentiment de mordre la poussière, où il n'y a pas une seule parole de consolation humaine qui soit audible, supportable, où nos expériences passées, nos assurances même spirituelles ne sont plus d'aucun recours. Eh bien, c'est là, dans la privation, dans le dénouement, que nous pouvons enfin répondre. Répondre à celui qui nous poursuit de sa tendresse, à celui qui nous veut vivants, à celui qui nous veut libres et même partenaires de sa volonté. Oui, Dieu, chacun, je crois que c'est le sort de chacun. Dieu nous mène au désert, à un moment ou à un autre dans notre existence, pour que dans ce jeûne de sens, de paroles assourdissantes, de biens matériels parfois, qui nous gavent mais qui ne nous nourrissent pas, nous retrouvions en nous la capacité à répondre librement à ces avances. C'est dans ces structures provisoires, dans cet exode intime, que nous sommes disponibles pour faire ou refaire alliance avec lui, pour reprendre notre vie en vrai sujet désirant, en partenaire amoureux de la volonté de Dieu. Là, dans une compréhension renouvelée, inédite, intime de la tendresse de Dieu, tendresse unique pour l'unique que nous sommes, eh bien, nous pourrons l'appeler mon mari et non plus mon Baal. Parce qu'en hébreu, mon mari, ça veut dire mon homme, c'est-à-dire le masculin de la femme. Au sens du premier homme de Genèse au chapitre 2. Et ça suppose donc que mon homme a un correspondant féminin qui est à égalité. Donc ça suppose une relation de réciprocité, de complémentarité, ce qui n'est sûrement pas le terme de Baal. Car Baal signifie maître, mais en induisant l'idée de propriétaire. Alors c'est en passant par la privation de Dieu, par ce degré zéro de la relation avec lui, parfois faite de révolte terrible, c'est par ce passage étroit et angoissant où il nous manque en fait, où il semble s'écarter de nous, nous dédaigner, nous oublier même. Eh bien, c'est en passant par cette porte étroite que nous retrouvons avec lui une relation d'amour, une relation d'interdépendance consentie cette fois-ci, et non plus une sorte de commerce automatique hérité de l'usage familial ou une relation étouffée par la peur du rien et la peur de l'abandon. Ce degré zéro qu'est la vallée d'accord, hein, vous avez entendu cette mention, c'est précisément là où s'ouvre une porte de l'espérance, dit le texte. Eh bien, cette vallée d'accord, c'est le lieu dans le livre de Josué au chapitre 7, où une faute cachée a dû être expiée car elle entraînait l'échec du peuple hébreu dans la conquête de la terre promise. Alors vous voyez bien que pour nous, chrétiens, nous avons une lecture quand même christocentrée. Comment ne pas penser à la croix du Christ lorsqu'il est abandonné à sa vulnérabilité humaine? Comment ne pas penser à ce passage terrible qui nous ouvre avec Dieu à une relation d'un autre type, une relation où l'on peut risquer l'avenir sans certitude, c'est vrai, sans rite conjurateur, mais avec une espérance affermie. Je te fiancerai, il le dit trois fois, je te fiancerai à moi. Et le terme de fiancé, c'est celui qu'on utilise pour une vierge, c'est-à-dire le retour à Dieu est un retour à zéro. Le passé est totalement aboli. Il ne reste rien de l'infidélité passée. Il y a un gigantesque potentiel d'avenir. Alors voilà ce que nous retiendrons aujourd'hui. C'est au risque d'une rupture que le Seigneur nous expose. Et ce risque, il le prend, car il sait notre incapacité à revenir à lui par nos propres forces. Il connaît notre faiblesse et la faiblesse de notre volonté à changer d'orientation. Mais il se laisse emporter par son amour. Il sait se faire impérieux. Il sait se saisir de nous. Il sait nous saisir en semblant nous condamner ou en semblant nous abandonner. Et surtout, c'est lui qui sait accompagner notre désir de retour à lui, quand c'est l'impasse ou le désir qui nous y a contraints. Et c'est parce qu'il revient sur la violence de sa déception, c'est parce qu'il aime la non-aimée, c'est parce qu'il fait du Fils un temps renié son peuple, qu'il donne à chacun de nous la dignité de l'appeler à nouveau « mon Dieu ». Amen. levons pour chanter le cantique 289 que Aurélia nous a préparé en fait.